Il est 6h30 à Paris, merci d'écouter RFI, 4h30 à Abidjan et en temps universel. Et la deuxième édition d'Afrique Matin avec vous Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous. Et on commencera tout d'abord avec le journal et avec le nouveau patron de la BAD. La Banque Africaine de Développement connaît en effet son nouveau chef. C'est le Mauritanien Sidi Ould Ta qui a été élu hier. Et il a déjà fixé son cap, on vous les présentera. La politique camerounaise et la présidentielle d'octobre qui se prépare avec une possible candidature pour Maurice Kamto sous les couleurs de l'UMS, l'Union des Mouvements Socialistes, on vous expliquera tout. En RDC, l'Assemblée nationale qui autorise l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il est soupçonné de tentative de détournement de fonds. Une affaire sordide qui provoque l'indignation en Afrique du Sud. Une mère condamnée à la prison à perpétuité pour traite d'êtres humains et enlèvement après avoir vendu sa propre fille de 6 ans. Les hommages au Gabon, au footballeur Aaron Boupenza, décédé le mois dernier en Chine, chuté du 11e étage de son immeuble. Un footballeur qui a marqué les esprits dans son pays, vous l'entendrez. Notre reportage du jour qui nous emmènera visiter un chantier tout à l'heure à Porto Novo, la capitale du Bénin. On ira au musée international du Vodoun qui doit normalement ouvrir ses portes avant la fin de l'année. L'actu sport également au programme, bien sûr, comme tous les jours. Soyez tous les bienvenus sur la Radio du Monde. Il prend donc les rênes de la Banque africaine de développement. Sidi Ould Ta a été élu hier ex-ministre de l'économie de Mauritanie qui prendra ses fonctions le 1er septembre. En 3 tours de scrutin, il a remporté 76% des voix devant le Zambien Samuel Munzele Mainbo qui a recueilli lui un peu plus de 20%. Et Sidi Ould Ta a déjà fixé sa priorité pour relever les nombreux défis qui l'attendent. Il souhaite rencontrer dans un premier temps les équipes de la BAD ainsi que les représentants des actionnaires et de la société civile pour mieux cerner leurs attentes, Julien Clémenceau, et mieux y répondre, dit-il.
Si globalement la banque fonctionne bien, son efficacité peut largement être améliorée. D'abord, en apaisant les tensions. Son prédécesseur, le Nigérian Akinwumi Adesina, pouvait être clivant. La banque doit aussi être plus agile et cela passe d'abord par l'accélération du décaissement des fonds pour les projets. L'étude de financement prend parfois plusieurs années. L'autre priorité absolue, celle-là, ce sera d'augmenter la mobilisation des ressources. La Banque africaine de développement investit environ 10 milliards de dollars par an, mais c'est loin d'être assez. Et là, il va falloir en plus compter avec un possible désengagement américain. Dans le projet budgétaire 2026 présenté par l'administration Trump, ce sont 550 millions de dollars prévus pour le Fonds africain de développement de la BAD qui ont été annulés. Peut-être que la solution viendra des États du Golfe. C'est ce que le Mauritanien, qui avant dirigeait la Banque arabe pour le développement en Afrique, a plus ou moins promis.
Les explications de Julien Clémenceau. Un congrès qui se prépare sur la scène politique du Cameroun, celui de l'UMS, l'Union des Mouvements Socialistes, qui est prévu demain, samedi, pour désigner un candidat en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et une rumeur court déjà en bruit de fond. Cette rumeur, c'est que Maurice Kamto, souvent présenté comme le chef de file de l'opposition, pourrait être investi à l'occasion de ce congrès, alors qu'il a déjà été investi par le MRC, son propre parti. Oui, mais cette candidature sous la bannière du MRC est menacée d'invalidation, alors certains y voient un possible tour de passe-passe. À Yaoundé, les précisions de Polycarpe Samba.
Le député Pierre Kouémo et président de l'UMS annonce que le candidat de son parti pour la présidentielle d'octobre devra passer par le tamis d'une primaire en interne. Les candidats doivent être des militants de l'UMS mais pas que. Des candidatures jusqu'ici externes au parti pourraient bien arriver.
Il y a d'autres ouvertures à d'autres candidats qui peuvent adhérer au parti. On peut recevoir à tout moment un candidat qui remplit cette condition. Et la seule condition, d'ailleurs qui n'est pas contraignante, c'est adhérer au parti. C'est le préalable.
Cette petite ouverture serait-elle alors un petit passage étroit aménagé par l'UMS pour accueillir la candidature de Maurice Kamto? Pierre Kouémo admet au minimum des discussions avec le leader du MRC dans le cadre de la plateforme des partis de l'opposition qui travaille à une réforme consensuelle du code électoral.
Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Le congrès est souverain. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le bien-être des populations. Nous ne devons pas rester fermés. Maurice Kamto est sur une plateforme avec nous. Donc, je ne peux pas vous dire que vraiment, nous sommes des incollables. Nous sommes dans une plateforme pour la révision du code électoral depuis 4 ans.
La direction du MRC est quant à elle discrète sur cette question, mais au-delà de la candidature de Maurice Kamto, Pierre Kouemo avance que le vrai défi pour l'opposition reste de trouver en son sein une candidature consensuelle. Celle-ci reste possible, affirme-t-il, notamment après la publication de la liste des candidats définitifs que validera le Conseil constitutionnel. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
En RDC, l'Assemblée nationale autorise donc l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Décision prise en plénière hier sur sollicitation du procureur général qui soupçonne Constant Mutamba de tentative de détournement de fonds. Cela dans le cadre d'un projet de construction de prison à Kisangani. Une commission spéciale et temporaire mise en place la semaine dernière au sein de l'Assemblée a ainsi rendu son rapport hier avant le feu vert des parlementaires à la justice. À Kinshasa, correspondance de Pauline Azidi.
Les élus estiment que les faits suspectés sont graves et qu'il faut laisser la justice poursuivre son travail. Pour rappel, la commission a auditionné mardi pendant 6 heures le procureur général et pendant 5 heures le ministre de la Justice. Le procureur est revenu sur ses accusations, sur ses interrogations par rapport à ce marché passé de gré à gré et ce virement de 19 millions de dollars à la société Zion Construction, des fonds qui ne viennent pas du trésor public mais du Frivao, un établissement chargé de gérer les 325 millions de dollars dus par l'Ouganda à la RDC, un fonds sous tutelle du ministre de la Justice. Pour sa défense, Constant Mutamba a reconnu des erreurs et a demandé pardon, mais il a surtout insisté sur ce qu'il estime être un règlement de compte. Il a aussi évoqué ses relations difficiles avec la première ministre Judith Suminwa, un climat de travail propice au conflit, selon lui, des propos qui fragilisent sa place au gouvernement. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La RDC, où un autre homme politique est également dans le viseur de la justice, à savoir le député Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, visé par une enquête pour propagation de fausses rumeurs et divulgation de secrets d'État. En cause, une interview début mai dans laquelle il dénonçait une gabegie financière, affirmant en substance que l'argent destiné au projet arrivait bel et bien, mais qu'il était ensuite partagé. Une commission d'enquête a été mise en place et devrait rendre son rapport ici la semaine prochaine. Au Sénégal, l'ancien député maire de Dakar, Barthélémy Dias, lance son propre mouvement politique, Sénégal Biniou Bok, en français, le Sénégal que nous partageons. Il veut rassembler les déçus de la politique actuelle. Barthélémy Dias marque ainsi son entrée solo sur la scène politique après des années de compagnonnage avec son mentor Khalifa Sall. Pendant ce temps, cette visite en Côte d'Ivoire, le Premier ministre du Sénégal, justement, Ousmane Sonko, arrivé hier à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 3 jours. Il a été accueilli par son homologue ivoirien, le Premier ministre Robert Beugré Mambé. Au programme de cette visite, un entretien entre les deux premiers ministres prévu ce matin avant une conférence de presse. Une mère condamné à la prison à perpétuité pour traite d'êtres humains et enlèvement en Afrique du Sud. Elle a vendu sa propre fille de 6 ans. Une affaire qui soulève l'indignation. Cette jeune fille a été vendue à des fins d'esclavage et reste introuvable aujourd'hui depuis sa vente l'an passé. Et sa mère, Kelly Smith, vient donc d'être condamnée. Mais hasard du calendrier, la décision de justice marque aussi le premier jour de la semaine de la protection de l'enfance en Afrique du Sud. Correspondance Valentin Hugues.
La protection des enfants est la responsabilité de tous, déclare le parquet sud-africain une fois le verdict prononcé. Mais la perpétuité ne ramènera pas ma petite fille, disparue depuis plus d'un an, martèle la grand-mère de Jocelyn Smith. Pour beaucoup, cette affaire illustre surtout un système qui échoue à protéger ses enfants. Même si certaines lois prometteuses de protection de l'enfance ont accompagné l'avènement de la démocratie il y a plus de 30 ans, les services de protection sont surchargés, souvent sous-financés, sans oublier le manque de suivi des parents en matière de santé mentale. Résultat, les chiffres sont alarmants. 3 meurtres d'enfants chaque jour et une disparition toutes les 5 heures. Chaque procès réveille alors ce besoin urgent de réformer l'aide à l'enfance dans le pays. La Commission des droits humains d'Afrique du Sud demande par exemple une meilleure application des peines, la mise en place plus sérieuse d'un registre des délinquants sexuels pour les empêcher de travailler au contact des plus jeunes et une prise de conscience de l'ensemble de la société pour briser le cycle de la violence et mettre fin à ce fléau. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Le nord du Mozambique et cette situation sécuritaire qui se détériore, la pression grandissante des terroristes est constatée sur place hier. Le groupe État islamique a revendiqué sur ses réseaux sociaux 2 attaques contre les forces armées mozambicaines dans la région septentrionale du Cabo Delgado. Le bilan ici s'élève à une 30aine de victimes chez les soldats. Depuis le début du mois de mai, les terroristes multiplient les incursions dans la région.
RFI à Libreville, 104 FM.
Le temps des hommages hier au Gabon, un mois et demi après le décès du footballeur Aaron Boupenza, mort à 28 ans dans la chute du 11e étage de son immeuble en Chine où il évoluait. Un hommage national lui était rendu hier au pays, cérémonie organisée dans un gymnase de Libreville. Pour celui qui a porté à 35 reprises le maillot de la sélection nationale pour laquelle il a inscrit 8 buts au total. Un joueur dont la mémoire est unanimement saluée. Reportage Yves-Laurent Goma.
La médaille d'officier dans l'ordre du mérite gabonais est épinglée sous le drapeau vert jaune bleu qui couvre le cercueil. Aaron Boupenza vient d'être décoré à titre posthume. L'émotion est à son comble. Dans l'assistance, M. Fouti, ancien international gabonais, venu de Mouila, à 450 km de Libreville.
J'ai joué avec son papa et ses oncles. C'est vraiment mon fils. Je suis très triste par rapport à ça.
La mobilisation du gouvernement pour cet honneur dû à cette vedette qui a porté haut les couleurs nationales fait chaud au cœur des Gabonais.
C'est un hommage mérité. Ça reste un bel hommage avec la présence des plus hautes autorités.
Aujourd'hui, la nation nous rend hommage. Je crois que c'est mérité par rapport à ses prouesses de footballeur.
Au-delà de cette reconnaissance nationale, les proches et amis du défunt restent inconsolables.
C'est triste, sachant qu'il avait la joie de vivre. Et il savait transmettre ça autour de lui. Du coup, vraiment, jusqu'à là, on n'y croit pas. C'est vraiment triste. Ça fait vraiment mal.
Aaron Boupenza sera inhumé ce vendredi dans un mausolée privé, proche du stade de l'Amitié de Libreville, où il s'est illustré par son talent. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
En RDC, on y retourne pour vous parler ce matin de Didi Mandjeku, ce maître de la guitare soukou. Il remonte sur scène à Kinshasa, cet ancien chef d'orchestre du mythique OK Jazz de Franco Luombo. Il donnera un concert unique à l'Institut français, l'occasion de faire vivre les mythiques morceaux de la rumba congolaise. Aurélie Bazara Kibangula.
Guitare en main, Didi Mandjeku fait résonner les notes des classiques de la rumba congolaise. Légende vivante du soukou, s'il prépare son retour sur scène, 8 ans qu'il n'avait pas joué à Kinshasa.
Pour moi, c'est me ressourcer. C'est le pays où je suis né, pour que je sois dans le monde. Il y a toujours Kinshasa dans ma tête.
C'est important pour vous de répéter les classiques de la rumba congolaise?
Ça peut être du zaïko, ça peut être du lokeja, ça peut être du taboulé. Je fais hommage à tous ces héros de la rumba congolaise moderne. Donc perpétuer la rumba, quoi, donc, dans laquelle j'ai grandi. C'est le patrimoine de tout Congolais.
À 79 ans, Didi Mandjeku n'a rien perdu de sa virtuosité. En témoigne l'artiste Niboma, son compagnon de route.
Vraiment avec son âge, avoir ce talent-là, vraiment c'est formidable. Venir au pays, faire la musique ensemble avec les grands frères, ça m'a fait une émotion.
Un retour sur scène qui signe des retrouvailles entre amis, tous musiciens et compositeurs ayant participé à faire de la rumba, la référence de la musique congolaise. Aurélie Bazara Kibangula, Kinshasa, RFI.
Kinshasa, où il est 5h43 minutes, 6h43 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
Restez avec nous, bien sûr, RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem dans un petit peu plus de 16 minutes. Mais d'abord, la culture vaudoune et son musée international qui verra le jour d'ici la fin de l'année, normalement à Porto Novo, au Bénin. On ira visiter le chantier pour notre reportage du jour. Le premier congrès des peuples autochtones et des populations locales des bassins forestiers qui se refermera aujourd'hui au Congo-Brazzaville. On en discutera avec notre invité, Bonaventure Bondo, chargé de campagne forêt pour l'ONG Greenpeace. Notre dossier Afrique Économie sur une nouvelle loi qui encadre la sous-traitance en Tunisie. 200 000 travailleurs concernés. La parole de Charlotte Ntamack également au programme, mais d'abord c'est l'heure des sports. Et c'est avec vous Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Sébastien.
On démarre avec le football. 12 jours de stage à Dar es Salaam, voilà ce qui attend les joueuses de la RDC avant la CAN.
Les Léopards d'Am en préparation, avec à la clé une double confrontation contre la Tanzanie. Premier match dès ce vendredi, à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la CAN féminine, prévu du 5 au 26 juillet au Cameroun. Préparation qui est aussi l'occasion pour le nouveau sélectionneur Hervé Appy de tester de nouvelles joueuses, Olga Massangou.
Elles sont au nombre de 27, les léopards dames convoquées par Hervé Appy pour ce stage, parmi lesquelles des binationales, 8 au total, pour renforcer l'équipe tout en maintenant l'équilibre du groupe.
À partir du moment où il y a des joueuses congolaises qui jouent à travers le monde, il est de notre devoir, nous, le staff, et puis tous les gens qui sont concernés, de voir un petit peu quels sont leurs niveaux et de leur donner une chance. C'est pas dit que les 8 soient là à la CAN. On va voir laquelle a le meilleur profil, parce que il faut pas oublier aussi que les joueuses qui étaient là ont qualifié l'équipe pour cette Coupe d'Afrique. C'est vraiment la méritocratie qui va primer et l'équilibre de l'équipe.
Appy prend les commandes de la sélection féminine de la RDC jusqu'en 2027, avec en ligne de mire la CAN Maroc 2025.
Bien préparer l'équipe nationale de façon à ressortir un noyau dur et après l'affiner sur le dernier stage afin qu'on ait un groupe compétitif pour le 5 juillet. Voilà déjà le premier match.
Pour sa première sélection en équipe nationale congolaise, la milieu de terrain du FC Nantes, Eva Sumo, n'a pas caché sa fierté de représenter son pays.
C'est une fierté pour moi d'être ici. Moi, j'avais jamais eu l'habitude de jouer avec des filles autant à l'étranger. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de venir dans la sélection du Congo. Et je veux retenir vraiment juste ça et jouer pour mon pays.
Jusqu'ici, la RDC n'a pas gagné le moindre match amical sur les 6 qu'elle a livré. Olga Masangu Kinshasa, RFI.
Une CAN féminine prévue du 5 au 26 juillet au Maroc, bien évidemment.
Et bien évidemment, Antoine, allez chez les messieurs. En France, les gamins de Génération Foot renvoient Metz en Ligue 1.
Alpha Touré, 19 ans, buteur en prolongation avant que papa Amadou Diallo, 20 ans, en adresse une passe décisive à Gauthier Hein pour le but du 3-1. Bref, les Messins, vainqueurs de leur barrage retour face au Stade de Reims 2, Yevan Diouf, font leur retour en Ligue 1 un an après l'avoir quitté. De quoi ravir le capitaine Mathieu Hudol qui avait répondu à l'ouverture du score du Malien Anchetia.
C'est une magnifique soirée, on a fait preuve de beaucoup de caractère parce que en étant mené 1-0 en deuxième période, on aurait pu marquer le coup. Mais vraiment déjà sur ce match, allez, on était confiants en notre jeu. En étant mené, on était confiants en notre jeu et on n'a pas dérogé à ça, on a été chercher cette égalisation. Et derrière, on savait que physiquement, on était mieux qu'eux. Et on a bien joué les coups, on a mis deux magnifiques buts en prolongation, deux buts d'équipe et c'est la soirée parfaite.
Mathieu Hudol chez nos confrères de Beansport, la Ligue 1 avec le FC Metz donc débutera le 15 août prochain.
Et enfin du basket, Antoine, New York revient à 3-2 dans sa série face à Indiana.
Malgré Pascal Siakam à nouveau prolifique, le Camerounais auteur de 15 points, 6 rebonds et 5 passes mais qui n'a pas pu empêcher la défaite des Pacers 115-94 en finale de conférence Est de la NBA. Les Knicks du Nigérian Precious Achiuwa remettent donc un peu la pression sur Indiana. Les New Yorkais devront s'imposer à Indianapolis samedi s'ils veulent revenir dans le Madison Square Garden pour un éventuel match 7.
Le journal des sports, Antoine Grenier sur RFI. 4h47 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale de ce vendredi 30 mai 2025. Et pas d'arrêt des combats tout d'abord dans la bande de Gaza. Si Israël avait accepté la dernière proposition américaine de cesser le feu dans l'enclave palestinienne, le Hamas l'a de son côté refusé, assurant que cet accord ne répondait pas aux demandes de ses dirigeants, notamment l'arrêt de la guerre et de la famine. En Syrie, le groupe État islamique a revendiqué sa première attaque contre les forces des nouvelles autorités, la première depuis la chute de Bachar el-Assad. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état d'un mort et de 3 blessés au sein de la 70e division de l'armée, visé par une mine terrestre mercredi. Aux États-Unis, ils avaient été suspendus temporairement par un tribunal spécialisé sur la question. Les droits de douane de 10% dits réciproques ont finalement été rétablis il y a quelques heures par une cour d'appel, à la grande satisfaction du président Trump, lui qui avait fustigé la décision du tribunal, la qualifiant d'horrible et de trop politique. Et puis l'Ukraine, qui se dit favorable à de nouveaux pourparlers avec la Russie à Istanbul. Kiev qui demande toutefois à Moscou de lui transmettre un document détaillant ses conditions pour une paix durable, pour pouvoir, je cite le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, engager une discussion constructive. Allez, on va maintenant visiter un chantier pour notre reportage du jour. Direction la capitale du Bénin, Porto Novo, où le musée international du Vodoun est en train de sortir de terre. Il doit voir le jour d'ici la fin de l'année. Un musée, comme son nom l'indique, consacré à la culture vaudoune et ses croyances pour déconstruire les stéréotypes négatifs qui les entourent. Enfiler un casque et des bottes, Pierre Firsion nous emmène visiter ce chantier.
À l'entrée de Porto Novo, juste après le pont, d'étranges bâtiments en forme d'alvéoles se dressent au milieu des grues. Petit à petit, les contours du musée international du Vaudoune se dessinent. Ce lieu, avec ses formes originales, a été imaginé par le cabinet d'architectes ivoiriens Kofi Diabaté.
Ça rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle certains disent les calebasses, qui est un élément important en culture vaudoune de façon large.
Alain Godonou est le chargé de mission au patrimoine et au musée du président béninois.
mais aussi l'architecture Betamaribé, on dit vulgairement l'architecture, disons, Tata Somba.
Référence à ces habitats traditionnels du nord-ouest du Bénin. Ces bâtiments et au-delà ce lieu unique abriteront plusieurs salles d'exposition où seront présentées non seulement des pièces de la collection nationale béninoise, mais également des objets venus d'ailleurs.
Ici et là, nous sommes en discussion avec les partenaires, discussions parfois conclues, pour avoir des objets significatifs des cultures vaudoun, notamment des cultures vaudoun hors du continent.
Des pièces venant notamment du Brésil, de Cuba, des États-Unis seront ainsi exposées ici, avec pour objectif de montrer le vaudou dans toutes ses composantes.
Et d'arriver à dépouiller le vaudou des idées négatives qui lui sont prêtées. Le public découvrira que le vaudou est tout à fait respectable.
En ce mois de mai, le chantier bat son plein. Ce jeudi-là, des ouvriers posent de grandes plaques de terre ocre sur l'un des bâtiments. D'autres travaillent sur les fondations de la future déambulation.
Il y a une circulation qui va se faire, hein, ça sera protégé, une sorte de canopée qui sera faite. Donc ce sont les soubassements qu'ils sont en train de faire pour tenir un peu les éléments de la canopée. Qui va faire que la promenade à l'intérieur du musée sera protégée. Quoi.
Outre la construction de cette canopée, il reste encore beaucoup à faire pour aménager les 16 000 m² du site. Le calendrier pourra-t-il être alors tenu ? Alain Godonou se veut confiant.
Les gros travaux sont finis, les travaux de finition ont commencé. La muséologie, la muséographie avance très bien. On n'est jamais à l'abri des surprises, mais je crois fermement que d'ici la fin de l'année 2025, il pourra ouvrir.
Le musée doit être inauguré en même temps que la statue du roi Toffa Ier qui trône sur la place située devant l'entrée du musée, une statue qui, elle, est déjà terminée. Pierre Firsion, de retour de Porto Novo, RFI.
Notre reportage sur le chantier du musée international du Vaudoune au Bénin à retrouver bien sûr sur Internet. Le premier congrès des peuples autochtones et des populations locales des bassins forestiers. Il se refermera aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Il rassemble des dirigeants autochtones, des représentants de communautés, des défenseurs de l'environnement, déterminés à défendre les écosystèmes forestiers les plus vitaux de la planète. L'objectif ici, c'est d'établir une déclaration commune en amont de la COP30 prévue au Brésil, à Belém, en novembre. Et pour en parler ce matin, Bonaventure Bondo est notre invité sur RFI, chargé de campagne forêt pour le bassin du Congo à Greenpeace Afrique. Au micro d'Alexandra Branjon, il commence par nous présenter les peuples autochtones du bassin du Congo.
En RDC, nous avons les Tua et les Aka. De même pour la République du Congo. Au Cameroun, nous avons les Baka qui s'étendent aussi au niveau du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Ils font face aux mêmes défis, surtout liés à la reconnaissance de leurs terroirs ancestraux parce qu'ils sont les premiers habitants, ils sont les détenteurs de ces forêts sur les plans traditionnels. Et avec l'expansion du développement axé sur le néocolonialisme dans le bassin du Congo, notamment l'exploitation industrielle du bois, le développement de l'agriculture industrielle aussi avec la plantation de palmiers à huile, ces communautés ont été plusieurs fois exposées à certains abus liés à la violation de leurs droits, à l'accaparement de leurs terres. Et dès lors, ils ont commencé à relever cette nécessité pour eux d'être reconnus, d'avoir une reconnaissance légale sur leurs terres et d'avoir une reconnaissance aussi légale à gérer leurs terres comme ils le font toujours depuis des années. Il y a un peu d'avancée, mais il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions arriver à sécuriser légalement les terroirs des communautés locales partout dans le bassin du Congo.
Entretien d'Alexandra Branjon avec notre invité Bonaventure Bondo, chargé de campagne forêt à Greenpeace Afrique. Entretien à retrouver plus en longueur dans une cinquantaine de minutes. Mais d'ici là, notre rendez-vous avec l'économie qui nous emmène ce matin en Tunisie pour évoquer là-bas les conséquences de cette loi votée au Parlement pour mettre fin à la sous-traitance dans certains secteurs, un texte porté par la présidence dans l'objectif de mettre un terme aux situations abusives de précarité de nombre d'employés de sociétés de sous-traitance. Dans le pays, plus de 200 000 travailleurs sont directement ou indirectement touchés, notamment ceux qui travaillent pour des sociétés de gardiennage et de nettoyage. Afrique Éco, à Tunis, signé Lilia Blaise.
Mourad Saïdani, 42 ans et gardien de sécurité dans une résidence, a veillé jusqu'à 4 heures du matin le jour du vote de la loi sur la sous-traitance au Parlement. il attend avec impatience un changement.
Vous n'imaginez pas mes conditions de travail. Ça fait un an et demi que je travaille ici pour 160 euros par mois. Je n'ai aucun jour de congé. Si je veux en prendre un, c'est prélevé de mon salaire. Je travaille 12 heures par jour. J'attendais vraiment cette loi, car je n'en peux plus de cette situation.
Il espère qu'avec la nouvelle loi, son contrat sera régularisé. Actuellement, il n'a pas de sécurité sociale. Le vide juridique et la confusion entre sociétés de prestations de services et sous-traitance ont laissé place à ce genre d'abus.
Je n'ai pas de formation ni de diplôme. Qui va embaucher quelqu'un de mon âge? La plupart des secteurs cherchent des jeunes et des saisonniers.
Avec la nouvelle loi, les CDD ou contrats précaires doivent être convertis en CDI et assurer une protection sociale. Une exception est faite pour le travail saisonnier. Mais le professeur en droit Hatem Kotran souligne un manque de clarté.
Une des difficultés est la durée maximale du CDD. Rien n'est dit dans la loi. On tolère des cas, mais on ne dit pas quel est le seuil, quelle est la durée maximale. On parle de contrat de travail conclu, la durée d'un chantier ou d'une mission. Cela a été supprimé et aujourd'hui, cela créerait beaucoup de difficultés pour nombre d'entreprises dans le secteur du bâtiment, par exemple.
Le député indépendant Zafer Zriri est l'une des voix à avoir émis des réserves lors du débat sur la loi à l'Assemblée. Il a dénoncé notamment le manque de consultation avec les partenaires sociaux et le patronat.
Avec le projet, il y a une étude d'impact et beaucoup de chiffres normalement. Ça doit être chiffré. Par exemple, le projet va impacter combien de personnes et tout ça. Ça, c'est inexistant dans le projet. C'est une grande lacune, c'est une faiblesse.
Le secteur privé a peu réagi à l'adoption de cette nouvelle loi. Le secteur public emploie, lui, 20% de travailleurs dans la sous-traitance. Le texte prévoit une amende de 3000 euros et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement en cas d'infraction. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Afrique Éco, tous les jours de la semaine sur RFI. h 56 à Paris, avant de retrouver RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem, l'humeur de Charlotte Ntamack qui nous parle d'une équation téléphonique ce matin, Charlotte, car selon vous, ça peut parfois être plus complexe qu'une équation mathématique.
Oui, lorsque le téléphone sonne et que s'affiche un numéro qu'on ne connaît ou ne reconnaît pas, on est face à son afficheur comme un élève qui, face à sa copie, doit résoudre une équation mathématique. Si pour l'élève, il est plus facile de résoudre une équation du genre 9x plus 5 est égal à 2x moins 7, on a beau se remuer les méninges, difficile de déterminer qui est ce X qui se cache derrière cet appelant inconnu. En refusant de décrocher un numéro parce que inconnu, on fuit un X inconnu tout en se demandant si derrière ce X au bout du fil, on ne passe pas à côté de l'appel qui allait changer notre journée ou même notre vie. Man, c'est peut-être la Gaudière là qui m'appelle avec un autre numéro, hein. Elle met sur son profil une photo où elle avait 20 ans. Le jour du rendez-vous, je tombe sur une femme qui pouvait m'accoucher. Je ne suis plus chaud. Mais je peux aussi faire comme ça, je ne décroche pas. C'est Billy qui veut nous donner une bière, hein. Comme il change de numéro tout le temps là. Marco, je ne connais pas le numéro si. Je décroche. Marco, décroche. C'est peut-être un appel d'argent. Et si c'est sa femme, Marco? Marco, quand tu décroches, est-ce que tu parles directement? Tu attends d'abord que la personne dise allô. Si tu entends la voix d'une femme, tu raccroches. On en vient à regretter l'ère téléphonique de nos parents et grands-parents avec leur téléphone à l'ancienne où l'appelant commençait par se présenter sans attendre que ce soit le téléphone qui vous présente par nom affiché comme c'est le cas aujourd'hui. L'équation téléphonique est un véritable casse-tête quand l'appelant inconnu vous connaît, c'est-à-dire vous appelle sur un ton familier par votre nom et entame la conversation tout de go, persuadé que vous avez son numéro et son nom dans votre répertoire. Un inconnu fait intrusion dans votre vie téléphonique et au lieu de vous dire ce qu'il emmène dans votre téléphone, vous pose des devinettes. Allô, c'est comment alors? Tu es où comme ça? Pourquoi tu parles un genre là? C'est comme si tu ne sais pas qui t'appelle, hein? C'est ton bon grand. Tu as combien de grands? Donc tu ne reconnais plus ma voix. Tu n'as plus mon numéro, hein? Par peur de frustrer la personne, vous la laissez se dévoiler. Mais vous avez beau revoir toutes vos formules téléphoniques, impossible de résoudre l'équation. Et lorsque vous posez la question qui fâche, c'est qui? Voilà l'énigme résolue et vous voilà obligé d'inventer un mensonge de téléphone volé ou changé et de répertoire perdu pour justifier pourquoi vous n'avez pas pu résoudre une si facile équation téléphonique. À vendredi.
À vendredi prochain, Charlotte Ntamack. Et oui, du lundi au jeudi, c'est Maman qu'on retrouve sur la radio du monde. Dans 30 secondes, RFI Matin débutera avec Julien Coquel-Rohem. Le temps pour moi de remercier Laurent Hérault à la réalisation, Nemo Ampis à la rédaction en chef. Et on passe un salut particulier accueillait ce matin à merveille. Qui coûte ça? Il nous dit qu'il nous écoute depuis l'enfance et fête cette année ses 18 ans à Goma, en RDC. Il nous a écrit sur l'adresse africmatin@rfi.fr. On l'en remercie. Excellente journée à tous. Restez avec nous.
Émission spéciale. Appel sur l'actualité est à Abidjan, Juan Gomez.
En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle sera-t-elle apaisée? Plusieurs figures de la vie politique sont inéligibles. L'opposition réclame un audit du fichier électoral et une réforme de la commission électorale. À 5 mois du scrutin, nous lançons le débat avec les représentants de plusieurs partis politiques.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.